Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, ravi de vous retrouver. Nous allons parcourir le monde au fil de l'actualité de ces 7 derniers jours avec bien sûr les reportages de la rédaction direction Cuba, Haïti et le Burundi. Bien entendu, nous allons revenir sur la tentative de coup d'État après le flash dans une vingtaine de minutes. Mais écoutez tout de suite ce que disait jeudi sur notre antenne le chef des militaires qui ont tenté ce putsch, le général Godefroy Niyombare.
Moi, je suis pas putschiste. Mon objectif, c'était pas un coup d'État. Mon objectif, c'était un refus de violation de la constitution du Burundi, un refus de la violation des accords qui nous ont aidés à avoir la paix dans ce pays. Mon objectif, c'était pas de prendre le pouvoir. Mon objectif, c'était de dire non à ces choses. Et si je pouvais réussir totalement, c'était de pouvoir donner le pouvoir à ceux qui étaient dans la légalité par rapport à notre constitution et notre accord d'Arusha.
Et on vous parle bien sûr de la situation à Bujumbura dans nos journaux ce matin. Cette semaine, nous allons faire escale en Turquie aussi avec notre invité Ahmet İnsel. Bonjour Ahmet İnsel.
Bonjour.
Vous êtes une figure intellectuelle en Turquie, vous êtes éditorialiste, éditeur, économiste et vous venez d'écrire « La nouvelle Turquie d'Erdogan, du rêve démocratique à la dérive autoritaire », un essai publié aux éditions La Découverte, un livre très clair, très documenté, où vous expliquez, Ahmet İnsel, que la nouvelle Turquie est beaucoup plus moderne aujourd'hui, évidemment, mais beaucoup plus conservatrice,
bien entendu, comme c'est un pays à très grande majorité musulmane, ce conservatisme s'alimente de l'islam, de certaines valeurs morales de l'islam, de règles de vie de l'islam, et le parti conservateur se réclame d'ailleurs du conservatisme, le parti dominant, et ce parti non seulement impose un conservatisme qu'on pourrait discuter à la rigueur, mais surtout désormais le leader de ce parti, à partir de sa légitimité électorale, montre une vraie dérive autoritaire.
Alors effectivement, c'est ça que vous soulignez. Depuis l'élection d'Erdogan, la première élection d'Erdogan en 2002, le régime n'a fait que se durcir.
Il y a deux périodes. En fait, il y a deux périodes. Il y a une première période où on peut considérer que le gouvernement a fait des réformes. D'ailleurs, il était applaudi. Vous vous rappelez, oui. En Europe, au niveau de l'opinion publique internationale, il était considéré presque comme un exemple d'un pays musulman qui pourrait devenir
un modèle.
Et c'était pas totalement faux, puisque il y avait aussi la perspective d'adhésion à l'Union européenne. Ils ont fait vraiment des changements démocratiques, tout en étant conservateurs, tout en mettant en place des politiques néolibérales très tournées vers l'économie de marché, etc. Bon, ça c'est après tout une droite démocrate, critiquable, mais droite démocrate. Mais à partir de 2007-2008, le pouvoir est devenu de plus en plus, et plus personnellement, je dirais, Tayyip Erdogan. Après avoir éliminé les principaux fondateurs du parti qui constituent une sorte de quadriumvirat autour de lui, il est resté seul. Et la Turquie est un pays qui aussi, c'est une société qui produit aussi de l'autoritarisme par le bas. Et avec la légitimité électorale Tayyip Erdogan, c'est vrai que gagner 3 élections successivement en montant les voix d'une élection à l'autre, c'est pas donné à tout le monde, et je pense que ça lui a un peu tourné la tête.
Alors Ahmet İnsel, on va continuer notre tour du monde sans tarder. À Port-au-Prince, si vous le voulez bien, capitale d'Haïti, qui a reçu pour la première fois la visite officielle d'un président français dans ce pays fondé par d'anciens esclaves. François Hollande a parlé de dette morale de la France à l'égard d'Haïti. Il faut savoir qu'en 1825, la France avait demandé 150 millions de francs or en échange de la reconnaissance de l'indépendance de la jeune République. Le président français a promis, lui, une aide de 50 millions d'euros en faveur de l'éducation, ce qui a laissé sceptique une partie de la population, comme en témoigne ce reportage mardi de notre correspondante Amélie Baron.
Ricci ne décolère pas. Son slogan sur la question de la dette, c'est « l'argent oui, la morale non ». Aux abords du Champ de Mars, où se tenaient les cérémonies officielles, il tient à exprimer sa haine envers la France.
En ce moment, je ne trouve pas ça logique du tout. C'est tout l'argent qui est le plus important pour nous. Cet argent pourrait nous aider à monter des petits commerces pour qu'on puisse travailler. Maintenant, je n'accepterai même plus que la France vienne faire quoi que ce soit dans le pays. Je ne serai plus d'accord.
Certains jeunes autour de lui tiennent un discours plus tempéré, mais Philistin Servilus craint, lui, que les plus défavorisés en Haïti ne bénéficient pas de l'aide française pour l'éducation.
Ça n'aurait jamais été possible que Hollande investisse tout cet argent directement en liquide. Mais les négociations peuvent être bonnes, utiles. Par exemple, beaucoup de gens ont leur maison encore détruite et n'ont nulle part où dormir. Il vaut mieux que le gouvernement français vienne lui-même et construise le pays plutôt que de donner à l'État. Car en donnant à l'État, seuls les grands corrompus en profitent. Nous, les malheureux, on ne reçoit rien.
Car il faut maintenant que les gouvernements haïtiens et français détaillent la répartition de cette nouvelle aide de 50 millions d'euros. Sur la place du Champ de Mars, les jeunes ne se font guère d'espoir. Ils sont résignés à devoir continuer au quotidien à galérer pour se payer à manger.
Une semaine d'actualité à écouter aussi sur le site de la radio www.rfi.fr.
7 jours dans le monde.
La Turquie, nous y voilà, Ahmed Insel, les autorités de Libye reconnues par la communauté internationale, on sait qu'il y a deux pouvoirs, deux commandes en Libye, ont bombardé dimanche un cargo turc provoquant la mort d'un marin, selon Ankara, parce que le navire était entré dans les eaux territoriales sans permission, d'après les Libyens. Correspondance d'Istanbul, signé Jérôme Bastion.
L'attaque est survenue au large de Tobrouk, à l'est du pays, non loin de la frontière égyptienne, mais selon Ankara, à quelque 13 000 nautiques de la côte, donc dans les eaux internationales, et selon la version locale, à une dizaine de milles de distance, donc dans la zone de souveraineté libyenne. Le navire, qui livrait des panneaux de construction en provenance d'Espagne, a d'abord été touché par des tirs d'artillerie, puis il a de nouveau été frappé, cette fois par une série de bombardements aériens, parce que le navire ignorait les injonctions de faire demi-tour, disent les autorités locales, qui affirment qu'il était indésirable. Le ministère turc des Affaires étrangères a rapidement, je cite, « condamné avec fermeté cette attaque inqualifiable d'un navire civil, demandant des dédommagements et la poursuite de ses auteurs ». Une réponse vigoureuse qui illustre la tension croissante entre Ankara et les autorités libyennes contrôlant l'est du pays, celle-ci accusant régulièrement la Turquie de soutenir le terrorisme, je cite encore, à savoir les milices islamistes. Le gouvernement de M. Abdallah Al-Thani a d'ailleurs expulsé depuis longtemps les diplomates turcs et les entreprises turques travaillant dans le pays.
J'ajoute à cette information l'information que donne Claude Angéli dans le Canard Enchaîné, toujours bien informé, Claude Angéli, sur une opération turque en faveur des islamistes qui aurait été déjouée, mais qui ceux qui ont déjoué cette opération ont été condamnés par la justice turque. Une drôle d'histoire. D'abord, cette histoire de bateau, de navire, Ahmed Insel.
Alors, le navire en question, il c'est un navire appartenant à une société turque, mais battant pavillon, je crois que du côté des îles Caraïbes. Il s'agit effectivement d'une guerre d'influence entre la Turquie et le gouvernement reconnu par l'Union européenne ou par les puissances européennes que la Turquie ne reconnaît pas. Mmh. Et la Turquie soutient plutôt le gouvernement, l'autre gouvernement. Et ils ont des c'est parce que c'est un gouvernement plus proche des frères musulmans, je crois. Et effectivement, la Turquie est en position un peu de faiblesse dans cette affaire. La Turquie avait participé à l'opération qui avait été monté par Nicolas Sarkozy un peu à contre-pied. Initialement, il voulait pas intervenir dans le Libye, mais devant l'intervention, essentiellement parce qu'il y avait à l'époque 28 000 Turcs travaillant en Libye, pour pouvoir évacuer sains et saufs ces 28 000 Turcs, la Turquie a participé à l'opération militaire. Et depuis ce jour-là, la Turquie a perdu la totalité, je dirais, de son assise, de ses réseaux en Libye, où auparavant, il y avait effectivement beaucoup d'entreprises turques, beaucoup de travailleurs turcs présents.
Alors, visiblement, le président Erdogan soutient de plus en plus les islamistes.
Alors, le président Erdogan, il a toujours soutenu les islamistes.
Plus que jamais.
Pas maintenant. Il est très proche des frères musulmans. d'abord. Deuxièmement, sur la Syrie, il faut reconnaître qu'il a été toujours en ligne avec François Hollande sur la question syrienne. Et depuis que les Américains et la Grande-Bretagne a changé de position, la Turquie est un peu restée en contre-pied. Mais en plus, la Turquie, malheureusement, dans le Moyen-Orient, joue un rôle dangereux. Il s'engage beaucoup dans l'axe sunnite contre l'axe chiite, et la bataille entre l'axe sunnite et l'axe chiite se passe non seulement au Yémen, mais aussi en Syrie, et la Turquie fait partie. Et le plus dangereux, c'est que ce n'est pas un pays qui intervient à distance. Avec la Syrie, nous avons plus de 900 kilomètres de frontières, et un engagement de la Turquie dans les affaires syriennes a aussi des conséquences très dangereuses pour la Turquie dans l'avenir.
Alors justement, Ahmet Ünsal, l'armée gouvernementale syrienne a affronté ces dernières heures, ces derniers jours, des combattants de l'État islamique à 1 ou 2 kilomètres à peine des vestiges de l'antique cité de Palmyre, oui. Un site classé par l'UNESCO, vous le savez, selon le directeur général des antiquités et des musées de Syrie, Sami Boukhalifa, fait un point hier, vendredi.
La cité de Nimroud, celle de Hatra, le musée de Mossoul, en Irak, les djihadistes ont complètement détruit ces sites. Aux explosifs, à la massue, au marteau-piqueur, les partisans de l'organisation État islamique dévastent les cités historiques. Fiers de leur acte, ils se filment à chaque fois et publient des vidéos sur Internet. Des vestiges d'une civilisation plusieurs fois millénaire sont anéantis. En Syrie, la cité de Palmyre pourrait connaître le même sort. L'objectif des djihadistes est de la rayer de la carte et des livres d'histoire. Selon l'organisation État islamique, ces antiquités ne constituent en rien un patrimoine culturel. Elles sont au contraire perçues comme des idoles qu'il faut détruire ou alors comme une source de revenus. Les affaires sont les affaires, le trafic d'antiquités est très lucratif. Malgré leur bonne volonté, les 10 pays arabes du Moyen-Orient et du Golfe réunis au Caire autour des responsables de l'UNESCO pour tenter de trouver une solution ont une marge de manœuvre très réduite. Ils peuvent bien sûr protéger les sites archéologiques à leur niveau. Ceux situés en zone de combat en Irak et en Syrie échappent complètement à leur contrôle.
Alors, suite d'une semaine d'actualité, Ahmet, et nous allons au Yémen cette fois, avec une trêve humanitaire de 5 jours entrée en vigueur mardi soir, il était temps, semble-t-il, Romain Le Maresquier.
L'entrée en vigueur de la trêve entre la coalition arabe et les milices chiites houthis met fin à 7 semaines de raids aériens et de combats meurtriers. Depuis le 26 mars dernier et le début des bombardements de la part de la coalition menée par l'Arabie Saoudite, quelques 1400 personnes, la plupart des civils, ont perdu la vie selon l'ONU. D'ailleurs, ces dernières 24 heures ont été parmi les plus meurtrières. Un dépôt d'armes situé près de la capitale Sanaa a notamment été visé, causant 69 morts et 250 blessés selon le ministère yéménite de la Santé. Proposé par l'Arabie Saoudite, ce cessez-le-feu de 5 jours a été accepté non sans mal par les milices chiites houthis. L'ONU, elle, a déjà anticipé en préparant, je cite, un très important pont aérien d'aide humanitaire à destination de Sanaa. Le programme alimentaire mondial se dit quant à lui prêt à apporter des rations alimentaires pour plus de 750 000 personnes. Côté iranien, là aussi on s'organise. Un cargo chargé d'aide escorté par des navires de guerre est attendu dans le port yéménite d'Odeida, contrôlé par les houthis. Sur le plan diplomatique, le nouvel émissaire des Nations Unies est arrivé ce mardi à Sanaa pour Ismaël Oulcheikh Ahmed, seul le dialogue permettra un règlement de la crise yéménite.
L'actualité internationale, c'est aussi des migrants refoulés de Thaïlande et d'Indonésie de façon assez brutale. Ces migrants sont surtout des Rohingyas, c'est-à-dire des populations d'origine musulmane. C'est aussi un nouveau tremblement de terre au Népal. Il a fait des dizaines de morts, des milliers de blessés. Il a achevé de détruire des bâtiments déjà ébranlés par le séisme du 25 avril dernier. C'est en Russie la visite mardi du secrétaire d'État des États-Unis, John Kerry. Et d'autre part, selon un rapport rédigé par l'opposant Boris Nemtsov, assassiné à 2 pas du Kremlin en février dernier, Moscou a dépensé près d'1 milliard d'euros pour soutenir les rebelles séparatistes de l'Est de l'Ukraine. Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie d'Ahmet Ünsal qui a écrit la nouvelle Turquie d'Erdogan, du rêve démocratique à la dérive autoritaire. Il faut préciser, vous avez commencé à en parler, Ahmet, que c'est dans un contexte assez tendu que gouverne Erdogan.
Aujourd'hui Erdogan.
J'entends un contexte géopolitique.
Géopolitique, oui, tout à fait. L'environnement de la Turquie n'a jamais été un environnement simple.
Non.
Mais même avant, vraiment, il se trouvait toujours à la frontière de la guerre froide. Du temps de la guerre froide, frontière avec l'Iran qui est une frontière pacifique depuis 3 siècles, mais 2 puissances régionales qui se regardent, qui pèsent, qui sont en rivalité, la frontière avec l'Irak, la frontière avec la Syrie, d'un côté, plus maintenant tous les flux de migration clandestine qui passent en grande partie par la Turquie pour atteindre soit les îles grecques, soit l'Italie depuis la Turquie, plus, il faut reconnaître, presque 2 millions de réfugiés syriens en Turquie aujourd'hui. Un tiers sont dans des camps bien organisés, il faut le connaître, mais le reste, soit par des propres moyens, ils sont disséminés dans la grande majorité des villes de Turquie, et on les voit. C'est un vrai problème, non pas parce que la Turquie ne veut pas de ces réfugiés syriens, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces réfugiés syriens à terme, et la question syrienne étant un problème majeur. La Turquie n'a plus de représentation diplomatique à Damas, à Tel Aviv et au Caire. Et en plus à Libye. Donc vous voyez bien que pour la Turquie d'Erdogan, qui voulait être une puissance régionale stabilisatrice au Moyen-Orient, c'est plutôt un échec.
D'ailleurs, vous soulignez, Ahmet Insal, dans votre livre, l'isolement relatif aujourd'hui de la Turquie, ne serait-ce que par rapport à Israël. Je me souviens qu'il y a quelques années, on citait presque aussi en modèle le rapprochement entre Ankara et
Il y avait une coopération Israël. Stratégique ouais. avec l'Israël qui avait été signée en 1996. Et cette coopération stratégique avait à la fois un but de coopération militaire pour que les Israéliens puissent faire des exercices aériens en Turquie. Ils ont problème de toujours d'espace territorial pour faire ce genre d'exercice. Une coopération en même temps soutenue par les États-Unis. Et en même temps,
La Turquie fait partie de l'OTAN.
Et en même temps, la Turquie a utilisé cette possibilité de son dialogue avec l'Israël et le dialogue qui s'est mis en place à partir de 1998-99, surtout après le décès de Hafez Assad, avec la Syrie. Et pendant quelques années, en 2007-2008, la Turquie a organisé des rencontres diplomatiques non officielles à Istanbul entre les délégations syriennes et les délégations israéliennes. Je m'en rappelle très très bien, dans un hôtel, il y avait la délégation syrienne, dans un autre hôtel, la délégation israélienne, et les diplomates turcs faisaient le lien, et on pensait qu'ils allaient arriver à une sorte d'accord de paix entre eux. Mais le problème du Gaza, l'intervention israélienne au Gaza, le plomb durci, ça a tout éclaté, et Erdogan est devenu aujourd'hui, plus que les pays arabes, celui qui intervient le plus massivement, verbalement, violemment contre l'Israël. Parce que ça lui rapporte électoralement, il faut reconnaître.
Ouais, alors il faut préciser aussi que la guerre en Syrie a par ricochet des conséquences humanitaires, vous l'avez dit à un instant, Ahmet, mais aussi des conséquences politiques, ne serait-ce qu'avec la question kurde. On se souvient de ce qui s'est passé à Kobané il y a quelques mois.
Tout à fait. La question kurde, je dirais, 21e siècle, c'est difficile de faire ce genre de pronostic, mais le 21e siècle a commencé un peu comme le siècle des Kurdes, enfin, d'une certaine manière. Ce peuple qui est divisé entre quatre pays, qui n'a pas d'État, qui n'a aucune reconnaissance, surtout jusqu'à récemment. Enfin, avec l'Irak d'abord, l'Irak du Nord, mais aussi la Syrie, ce qui était totalement inattendu pour les Kurdes, parce que la population kurde en Syrie est très minoritaire. Le cœur des Kurdes se trouve, la masse des Kurdes se trouve en Turquie. Mais avec Kobané et avec les trois cantons qui se trouvent en Syrie, désormais on peut penser qu'en Syrie, quoi qu'il arrive dans l'avenir, il y aura une base, une territoire kurde qui va changer la donne.
D'autant que j'ai appris en lisant votre livre, Ahmet Insal, que des pourparlers n'ont jamais cessé finalement avec les Kurdes du PKK depuis 2009, dites-vous.
Tout à fait. Avec les Kurdes, les négociations. En fait, c'était même plus avant, depuis l'arrestation du chef du PKK en 99, Abdullah Öcalan. Les négociations continuent, mais à partir de 2009, les négociations sont accélérées et devenues un peu patentes. Jusque-là, c'était des négociations secrètes. Là, l'opinion publique est informée. Il faut reconnaître que l'AKP n'est pas un parti nationaliste, ethniquement nationaliste très fort. Il pensait pouvoir résoudre le problème kurde sur la base de la fraternité musulmane. Bien entendu, là, il se trompe aussi. Mais du coup, il reconnaît la kurdicité des Kurdes, si vous voulez. Alors que les laïcs modernistes, kémalistes, ne reconnaissaient pas la kurdicité des Kurdes. Eux, ils considéraient les Kurdes comme des Turcs de montagne.
Ahmet Insal, on va se retrouver dans 3 minutes. On va écouter quelques nouvelles du monde et on se retrouve dans un instant.
A tout de suite.
Merci pour ces informations. On se retrouve pour notre voyage au fil de l'actualité de ces 7 derniers jours avec les reportages de la rédaction.
Une semaine d'actualité.
Grâce à notre invité cette semaine, Ahmet İnsel, nous parlons de la Turquie. Économiste, éditorialiste, éditeur, il vient d'écrire « La nouvelle Turquie d'Erdogan, du rêve démocratique à la dérive autoritaire », un ouvrage publié aux éditions La Découverte. Dans quelques minutes, destination l'Afrique, mais d'abord quelques mots sur l'actualité française, enfin pas tout à fait cette fois-ci, car nous allons partir pour Cuba afin de revenir sur la visite du président français François Hollande dans ce pays. Cuba, un pays symbolique pour la gauche surtout, envoyé spécial. Florent Guignard.
Il était sur son petit nuage, François Hollande, à l'issue de cette journée cubaine qu'il qualifie lui-même d'historique. Accueil en grande pompe et marseillaise, place de la Révolution où trône le portrait géant de Che Guevara. Entretien et dîner officiel avec Raúl Castro. La France renouvelle son soutien à Cuba et son opposition à l'embargo américain. La Havane, de son côté, promet d'user de son influence en Amérique latine pour faire avancer la cause du climat avant la COP21 à Paris. Très discret sur les droits de l'homme, François Hollande semble avoir été happé par l'histoire, et même s'il se défend d'avoir fait un coup diplomatique, on sent bien qu'il est fier d'avoir été le premier ici et d'avoir touché l'histoire et ses mythologies de près, d'avoir été reçu par Fidel Castro à la maison avec femmes et petits-enfants. François Hollande est sensible à ce que représente la mythologie cubaine, même si on sait ce n'est pas vraiment sa gauche à lui. Alors en venant à Cuba, en rencontrant Fidel Castro, le président social-démocrate espère-t-il renouer justement avec cette gauche qui s'est éloignée de lui ? Je ne fais pas ce voyage pour des raisons de politique intérieure, répond François Hollande, mais ne pas venir à Cuba, dit-il, aurait été une faute.
Une semaine d'actualité donc en compagnie d'Ahmet İnsel. Je vous ai vu esquisser un léger sourire en écoutant ce reportage. Cuba vous inspire un commentaire ?
Oui,
Ou le voyage de François Hollande à Cuba ?
Non, le voyage, bon, un chef d'État a le droit d'aller à des pays alliés où, et symboliquement c'est important évidemment, mais le Cuba n'est plus le Cuba d'autrefois et le Parti Socialiste n'est plus le Parti Socialiste d'autrefois.
Et les Castro ne sont plus les Castro ?
Et les Castro ne sont plus les Castro. Donc du coup, c'est plutôt une nostalgie simplement qui règne dans cette affaire.
Alors une chose qui est frappante, Ahmet İnsel, on a commémoré il y a quelques jours encore les 100 ans, les débuts du génocide arménien qui a provoqué un grand débat en France, comme à chaque fois, c'est justifié, alors que la Turquie reste, en ce qui concerne le génocide arménien, sur des positions extrêmement dures.
Des positions négationnistes d'abord. Il y a eu une petite évolution.
La Turquie parle de massacre, c'est ça ?
Alors, si on parle de massacre, c'est encore bien.
Ah bon ? C'est... Donc il ne s'est rien passé en fait ?
Non, on parle... Oh non, on ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé parce que malheureusement, il y a 1,5 million ou 1 million d'Arméniens qui n'existent plus. Ou en tout cas, n'existent plus sur le territoire d'Anatolie. Et on parle souvent de massacre mutuel, que c'était la guerre, que les Arméniens ont tué des Turcs, les Turcs ont tué les Arméniens, et que tout ça c'est très malheureux, mais c'était des conditions de guerre, etc. Donc du coup, on minimise totalement l'affaire. Le langage officiel c'est, oui, c'était un grand malheur, tout le monde a connu beaucoup de malheurs, donc du coup, une sorte d'équilibre de malheur, compensation de malheur par malheur, mais évidemment, aucune reconnaissance de la responsabilité du gouvernement ottoman sur le massacre de ses propres citoyens.
Alors autre chose, vous parlez dans ce livre de la dérive autoritaire du régime d'Erdogan, c'est le titre du livre, du rêve démocratique à la dérive autoritaire. Cette dérive autoritaire explique en grande partie le fait que l'Union européenne s'est un peu éloignée de la Turquie. Il y a eu pendant des mois et des mois, il y a quelques années en France, un grand débat sur l'appartenance ou non de la Turquie en Europe. Aujourd'hui, plus de débat du tout.
Alors, la question que vous posez, c'est, je dirais, c'est l'œuf ou la poule, et la poule, la question de l'œuf et la poule, parce que est-ce que c'est la dérive autoritaire d'Erdogan qui a fait éloigner l'Union européenne de la Turquie, ou est-ce que l'éloignement de l'Union européenne de la Turquie a accéléré la dérive autoritaire?
Je pense les deux, peut-être.
Les deux sont vrais. Je pense qu'il y a une influence mutuelle, ce sont des dynamiques dialectiques, des dynamiques mutuelles.
Mais vous avez participé à ce débat il y a quelques années.
Oui, tout à fait.
Un débat très vif en France.
Très, très vif, jusqu'en 2008, disons. Avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy, déjà en France, le débat a été un peu arrêté puisque Nicolas Sarkozy a décidé unilatéralement que la Turquie n'avait pas sa place à l'Union européenne et avait décidé de bloquer 5 chapitres de négociations dans l'acquis communautaire. Mais avant 2007, effectivement, il y a eu un très grand débat. Il faut reconnaître que Jacques Chirac, quand il était président, a joué un rôle très important, positif, dans l'obtention, dans l'ouverture des négociations avec la Turquie, avec Bill Clinton et bien entendu les socialistes aussi à l'époque était divisé, mais la majorité avait soutenu. Et après, à partir de 2007, plusieurs facteurs sont intervenus. La crise en Europe, d'une part. Deuxièmement, la Turquie, de plus en plus, a commencé à se fermer sur elle-même. Et je crois que Tayyip Erdogan et la Turquie conservatrice, la Turquie au pouvoir, la partie au pouvoir de la Turquie, a été pris un peu par l'ubris, par cette
puissance,
par cette volonté de grandeur. Et en 2010-2011, en plus, la puissance de la Turquie était au zénith au niveau international, et on commençait à avoir en Turquie une sorte de d'idéologie. Après tout, on n'a pas besoin de l'Europe vieillissante,
la
vieille Europe. Nous sommes la jeune génération, la jeune puissance montante. Nous serons la nouvelle puissance régionale, peut-être la puissance mondiale, une nouvelle puissance mondiale. On va redistribuer les cartes au niveau mondial. La Turquie prendra sa place dans cette nouvelle distribution des cartes dans les jeunes puissances mondiales. Effectivement, ceci a conduit la Turquie aujourd'hui à un grand isolement international.
Alors, je vous renvoie à la question que vous posez au début d'un chapitre de votre livre, de ce livre passionnant, encore une fois, Ahmet İnsel, Tayyip Erdogan est-il le Vladimir Poutine de la Turquie ? Alors, ça, c'est une question qu'on comprend très bien en France. On voit très bien où vous voulez aller.
Oui, tout à fait.
Il faut quand même rappeler que M. Erdogan a été élu brillamment au premier tour
des élections présidentielles.
En 2014.
C'est le premier président élu au suffrage universel, parce que jusque-là, en Turquie, les présidents étaient élus par le Parlement, et c'est le premier président élu par le suffrage universel au premier tour avec 51-52% des voix, et évidemment ça donne une légitimité démocratique ou plébiscitaire, justement. Oui. C'est tout le débat. Et par rapport à la question, est-ce que Tayyip Erdogan est le Poutine de la Turquie? Oui et non, parce que d'abord la Turquie n'est pas la Russie. La Russie, malheureusement, n'a pas connu de grandes périodes démocratiques. Les élections en Russie n'ont jamais été, il n'y a pas de pratique électorale démocratique acquise depuis longue période. C'était un régime communiste avec parti unique pendant très longtemps, pendant 80 ans. Et puis après une 10 années de régime d'instabilité permanente, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et à partir de 1999-2000, l'arrivée de Poutine, verrouillage, trucage des élections. Donc, de ce point de vue-là, la Turquie n'est pas la Russie, donc du coup, il y a une tradition démocratique. Mais si Tayyip Erdogan était en Russie, probablement il aurait été le Poutine.
Il a le même caractère.
Il a le même caractère. Voilà. Je pense que Poutine et Tayyip Erdogan se ressemblent, bien que Tayyip Erdogan n'est pas quelqu'un qui vient de service secret, c'est quelqu'un qui a commencé à être militant de base. Il a monté grade par grade les échelles du politique. C'est pas comme quelqu'un parachuté par l'ancien KGB à la tête du pouvoir, mais ils ont le même pouvoir, volonté de pouvoir dans les deux cas. Tayyip Erdogan pourrait devenir le nouveau Poutine de la Turquie si jamais il réussit, après les élections de législatives de 7 juin, s'il obtient 2/3 de la majorité parlementaire, s'il change la constitution comme il veut et mettre en place un régime présidentiel sans contre-pouvoir, là, il pourrait devenir le Poutine de la Turquie. C'est quelque chose qu'il voudrait bien être.
Une semaine d'actualité.
Et nous partons pour l'Afrique, Ahmet İnsel, au Burundi, où les troubles causés par le troisième mandat du président Nkurunziza continuent, avec des manifestations quotidiennes et mercredi une tentative de putsch. On va revenir sur la notion de putsch parce que les Turcs connaissent hélas ce fléau. Une tentative de putsch donc, alors que le président burundais était en Tanzanie pour un sommet sur la situation de son pays. Tentative donc et échec. Correspondance hier vendredi d'Esdras Dikoumana.
C'est le propre numéro 2 des putschistes qui s'est chargé de le reconnaître officiellement hier soir. Le général Cyril Ndaye Rukiye, ancien ministre burundais de la Défense et conseiller principal de l'actuel ministre de la Défense, a été très clair. Personnellement, je le reconnais, notre mouvement a échoué, ce sont ses propres termes. Apparemment, les leaders du comité pour la restauration de la concorde nationale ont dû se rendre à l'évidence après leurs 2 tentatives de s'emparer de la radio-télévision nationale du Burundi, la RTNB, d'abord dans la nuit de mercredi à jeudi, ensuite hier après-midi. malgré les moyens utilisés, deux blindés et des centaines d'hommes ne sont jamais parvenus à s'approcher de cette radio-télévision publique devenue un symbole du pouvoir à abattre. Jusque tard dans la nuit, le numéro 1 de la tentative de putsch au général Godefroy Niyombare et ses hommes étaient retranchés dans un camp du sud de Bujumbura, alors que dehors, une véritable chasse à l'homme avait commencé. La raison toute simple, ils avaient espéré que d'autres allaient se rallier à leur cause, les rapports entendus ne sont jamais venus. De même pour le chef d'état-major général de l'armée burundaise, accusé de s'être allié avec un entourage de Nkurunziza, corrompu et qui conduit le Burundi à sa perte. Pierre Nkurunziza, justement, donné toujours à Dar es Salaam par des sources tanzaniennes, son entourage assure aujourd'hui qu'il est déjà au Burundi, dans sa province natale d'Ngozi, dans le nord, qu'il aurait rallié à bord d'un véhicule depuis la frontière tanzanienne. Quel sort réserve-t-il aux putschistes? Le général Cyril Ndayirukia a écarté toute solution qui envoie leurs hommes à une mort inutile. Mais en face, ils savent qu'ils n'ont aucune pitié à attendre de leur vainqueur.
Alors tout ça est évidemment à suivre dans nos journaux. Pour bien comprendre ce qui s'est passé ces derniers jours au Burundi, écoutez ce que nous a dit hier, toujours vendredi, notre envoyée spéciale Sonia Rollet.
D'abord, il y a cette annonce sur les radios privées, c'était il y a un peu moins de 48 heures. Le général Godefroy Niyombare décrète à la mi-journée mercredi la destitution de Pierre Nkurunziza, alors en Tanzanie, pour un sommet de l'East African Community. Quelques centaines de manifestants, des femmes surtout, sont en centre-ville pour dire non au troisième mandat du chef de l'État. Des milliers d'autres tentent de les rejoindre, mais restent cantonnés dans les quartiers périphériques par la police, ces gaz lacrymogènes et surtout ces tirs nourris. C'est l'annonce du général Niyombare qui va galvaniser ces milliers de manifestants qui envahissent le centre-ville, écrit Victoire. Pendant ce temps, des officiers loyalistes et putschistes discutent pour éviter le bain de sang. Négociations qui échouent sur la question du troisième mandat et d'un retour de Pierre Nkurunziza au pays. S'engage alors une guerre de communication dont les radios privées feront les frais. Les quatre principales radios, la RPA, Bonesha, Renaissance et Isanganiro, sont systématiquement attaquées par des hommes portant des uniformes de police. Le pouvoir se retrouve ainsi débarrassé du seul moyen pour les putschistes de s'adresser à la population. Les tirs nourris retentissent dès les premières heures du jour hier. L'objectif principal des insurgés, c'était de prendre la radio nationale. Une déclaration qui aurait de fait confirmé l'annonce du coup d'État. Échec. Et par deux fois, les putschistes espéraient encore des renforts pour poursuivre leur combat. Renforts qu'ils n'ont jamais reçus.
La crise au Burundi est encore une fois à suivre dans nos journaux et sur le site aussi de la radio www.rfi.fr. Suite d'une semaine en Afrique, à Metinsel, je vous sens très attentif avec un accord de paix partiel pour le nord du Mali signé hier après-midi à Bamako, la capitale, après avoir été paraphé la veille par les groupes rebelles à Alger. Dans la capitale malienne, David Bachet nous a tout expliqué hier vendredi avant la signature de ce texte lors d'une cérémonie officielle.
Plus de trois années de conflit et près d'un an de négociations pour parvenir à la signature de cet accord de paix dans des conditions très particulières, puisque contrairement au gouvernement malien et aux groupes armés qui le soutiennent, les rebelles ne le signeront pas. S'ils ont accepté hier de paraffer l'accord, un préalable, ils demandent de nouvelles discussions avant de s'engager définitivement et conservent la possibilité de signer le texte plus tard. Aucune date limite n'a été fixée. Sur le terrain, cela fait près de trois semaines que les combats ont repris, faisant au moins une quarantaine de morts. La signature, pour le moment partielle, de l'accord de paix permettra-t-elle de mettre un terme aux combats, de rassurer les 190 000 déplacés et réfugiés du Nord qui craignent toujours de rentrer chez eux, ou encore de redéployer l'armée et l'administration malienne dans tout le pays? Des questions auxquelles la médiation internationale, qui se porte garante de la mise en œuvre de l'accord, devra s'efforcer de répondre.
Réagir à l'actualité, semaine.actu@rfi.fr.
Merci pour vos messages. Continuez bien sûr à nous écrire, soit par mail, soit sur la page Une Semaine d'Actu de Facebook. Bonjour par exemple à Mamadou Maxime, à Cathy au Mali. Merci à toute l'équipe d'Une Semaine d'Actu, écrit-il, de nous informer en compagnie d'une personne qui nous fait découvrir le contenu de son livre. Aujourd'hui c'est Ahmet İnsel et nous parlons de la Turquie. Bonjour à Mongeski, fidèle auditeur de la Semaine d'Actu. Je veux saluer, écrit-il, Laurent Sadou, c'est fait. Mon chef commandant, bienvenue à Pointe-Noire et tous ceux qui se reconnaissent. Longue vie à l'émission, crie-t-il. Un salut également à Galia, proviseur, à N'Djamena, un salut à Siradio, enfin un bonjour à Haché Mahamat, directeur général, lui aussi, dans la capitale tchadienne.
Sept jours en Afrique.
Et avant de vous retrouver à Metinsel et de reparler de la Turquie, nous partons en Centrafrique où au début de la semaine, un grand forum sur la situation du pays a mobilisé la population. Envoyé spécial à Bangui, Laurent Corot.
Lors de son discours de clôture du forum, la présidente de transition, Catherine Samba-Panza, a rappelé que cette réunion avait été qualifiée de rencontre de la dernière chance et que, selon elle, cette dernière chance avait été saisie par la Centrafrique. Le coup de colère armé d'éléments anti-Balaka et Seleka vient jeter une ombre sur cet optimisme. Des différents forums de l'histoire de la Centrafrique, celui qui vient d'avoir lieu est celui qui a pu collecter le plus de points de vue de l'intérieur du pays, grâce notamment aux consultations populaires à la base qui ont été menées dans toutes les préfectures. Mais la réunion qui a eu lieu à Bangui a souffert d'une ambiguïté qui a fini par la desservir, simple lieu d'expression ou instance décisionnaire. Jusqu'au bout, le statut des préconisations effectuées est resté incertain, les procédures de validation des amendements opaques créant des frustrations. La présidence s'est finalement engagée à appliquer les recommandations du forum. Le rythme imposé a lui aussi provoqué des mécontents. Faire tenir le cœur des travaux sur 5 jours, dont 2 jours de plénière, obligeait à limiter le nombre de prises de parole et le temps accordé à chacun.
Échauffourée donc entre Anti-Balaka et Seleka lors de la manifestation de clôture de ce forum de Bangui, ces violences indisposent une bonne partie de la population. Reportage de Matteo Guidou, mardi.
Les échauffourées ont prouvé une nouvelle fois les divisions au sein même des anti-Balaka et des ex-Seleka. Gaston pense que tout cela va retomber sur la population.
Ils n'obéissent à personne. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont quelqu'un, ceux qui sont radicalistes, ils ont quelqu'un qui les pousse plutôt à agir mal contre la population. Et en général, c'est la population qui paye les pots cassés. Donc, moi, je crois que c'est un danger pour la population.
Pour Pierre, un habitant du 5e arrondissement, les éléments armés obéissent à ceux qui les payent et ce ne sont pas forcément les chef officiel.
Ce sont des rebelles et ils ont pris les armes parce qu'ils ont une cause. Et voilà, on dit souvent qui paye commande. Et si ces chefs qu'ils ont maintenant ne payent pas très bien, ils vont derrière quelqu'un qui paye très bien.
Jean, lui, n'est pas surpris par ces événements. Le forum de Bangui s'est bien passé, dit-il. Il veut garder la foi.
C'est des situations qui ne me surprennent pas du tout, tout simplement parce que c'est les cas anti-Balaka. C'est toujours des groupes désordonnés, désorganisés, aucune coordination. Et puis, ben voilà. Les chefs étaient là en train de parler pendant ces temps. D'autres éléments faisaient ce qu'ils voulaient. Confiant dans l'avenir, oui, l'espérance me fait vivre. Mais la réalité sur le terrain, quelquefois, me désole. Ça continue à me désoler.
Le sentiment général qui domine au sein de la population, c'est le ras-le-bol. J'en ai marre, confie un habitant. Marre de voir ce pays détruit par une minorité.
Une semaine d'actualité.
Et nous retrouvons notre invité Ahmet Insel pour parler de la Turquie. Vous avez entendu ces témoignages, il y a un sentiment de ras-le-bol de toute une nouvelle génération souvent d'Africains.
Ce sentiment de ras-le-bol en Afrique noire particulièrement, mais en Afrique du Nord aussi, puisque vous rappelez, les printemps arabes étaient un mouvement de jeunesse dans un premier temps. On le sent, moi je connais moins malheureusement l'Afrique noire, mais de ce que j'ai pu suivre par mes lectures de journaux et d'écoute radio, je vois effectivement qu'il y a une demande de changement à la fois de cadre politique et d'esprit politique. Parce que c'est pas simplement un changement de personne qui est demandé, si je comprends bien. La plupart du temps, c'est aussi une manière de changer, une manière de faire le politique.
Et de ne pas s'accrocher au pouvoir.
De ne pas s'accrocher au pouvoir, de changer. Mm-hmm. L'alternance devient en elle-même une valeur.
Oui. Alors, on a parlé de tentative de coup d'État au Burundi cette semaine, et la situation reste toujours très tendue, c'est le moins qu'on puisse dire, au Burundi. Les coups d'État, hélas, la Turquie a connu.
Malheureusement, la Turquie a connu 2 vrais coups d'État. En 1960 et en 1980, l'armée a pris le pouvoir et a dissous l'Assemblée nationale, etc. En 1960, a condamné à mort le Premier ministre et deux ministres. En 80, c'est surtout des centaines, des dizaines de milliers de militants de gauche, mais aussi parfois de droite, qui ont été torturés, mis en prison, des détenus condamnés à mort et exécutés. La Turquie a connu après des pressions de l'armée, des prises de des sortes de oukases de l'armée en 1997 par exemple, qui a renversé le gouvernement de coalition islamiste droite centriste. La Turquie a connu en 2007 encore, à la veille des élections du précédent président de la République, Abdullah Gül, qui était aussi issu du parti de justice et de développement de Tayyip Erdogan. Le chef d'état-major avait mis la veille, le premier tour des élections au Parlement de la Turquie, d'Ankara, avait mis à 11h du soir, sur l'Internet, sur le site de l'état-major, un mémorandum s'opposant ouvertement à cette élection. Alors, effectivement, nous sommes un peu sortis de cette « nous espérons ».
Oui, parce qu'on a longtemps dit qu'en Turquie, l'armée était une structure qui commandait, en fait.
Alors, c'était
une sorte de colonne vertébrale.
Tout à fait. C'était un pouvoir tutélaire. Et du coup, la démocratisation de la Turquie passait aussi par le dépassement de ce pouvoir tutélaire de l'armée, puisque ça bloque quand même le régime démocratique. L'AKP, le parti d'Erdogan, le Tayyip Erdogan, le parti de justice et de développement, a réussi à casser le pouvoir tutélaire de l'armée, mais n'a pas pour autant réussi à mettre en place un régime démocratique. Alors, Parce que, justement, c'est le fait que l'armée n'a plus ce pouvoir tutélaire nous permet peut-être dans l'avenir de retrouver une normalisation démocratique, mais aujourd'hui, nous avons un nouveau pouvoir tutélaire de plus en plus important, c'est le pouvoir tutélaire.
Avec des méthodes musclées, Ahmet Ensal, on a parlé ici même dans cette émission des révoltes de la place Taksim du parc Gezi, de la corruption des ministres du gouvernement, des mutations de policiers parce que le régime ne voulait pas qu'il y ait d'enquête sur cette corruption. Quelle méthode ?
Ah oui, ce sont des méthodes qui ne sont pas très différentes de l'armée quand il était au pouvoir, sauf peut-être il n'y a pas la peine de mort. Mais à part ça, les méthodes expéditives, les méthodes qui remettent en cause totalement les principes de séparation des pouvoirs, hein, c'est surtout ça. Il n'y a plus de séparation de pouvoir en Turquie, de fait. Sur papier, oui. Mais de fait, il n'y a plus de séparation de pouvoir. Les juges, il y a quelques semaines, deux juges, parce qu'ils ont décidé, libéré, supprimé la détention provisoire des policiers ou des journalistes que Tayyip Erdogan soupçonne d'avoir fomenté un coup d'État contre lui parce qu'ils ont fait des enquêtes de corruption, justement. Les deux juges suppriment la décision de détention provisoire. Ils sont dessaisis de leurs fonctions. Aujourd'hui, ils sont arrêtés pour participation au coup d'État contre l'État. Alors, évidemment, je crois qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de la République de Turquie, et je pense en France non plus, sauf en période de Vichy, que les juges soient jugés pour leurs décisions. À la rigueur, on peut juger les juges parce qu'ils ont fait de la corruption, etc. Mais le principe de base de la justice, c'est que les juges ne peuvent pas être tenus responsables de leurs décisions.
Mais alors, ce qui est étrange, Ahmet, c'est que le premier ministre d'alors, Erdogan, est devenu quelques mois plus tard président. Il a été élu au premier tour.
Il a été élu au premier tour, et là, justement, on voit bien ce qu'on peut appeler les régimes d'autoritarisme démocratique ou de démocratie autoritaire. C'est-à-dire que ils ont une base électorale. Les élections jusque-là, aujourd'hui, le 7 juin, nous ne savons pas, j'espérons que non.
Alors, mais l'élection législative le 7 juin prochain.
Les élections législatives le 7 juin prochain, nous espérons qu'il y aura toujours des élections démocratiquement défendables. Jusque-là, c'était le cas. Et la base électorale continue à soutenir cette personne, ce pouvoir, ce profil de pouvoir. Et là, nous avons vraiment dans un dilemme. Comment la démocratie peut se défendre par ses propres moyens, et non pas par des interventions extérieures, coup d'État, intervention, par ses propres moyens. C'est un grand dilemme que nous avons, et je pense que la lutte de la démocratisation par les forces démocratiques en Turquie est une lutte qui peut aussi donner des inspirations, si ça réussit évidemment, si ça échoue, je ne sais pas, mais si ça réussit, à des multiples régimes d'autoritarisme démocratique qui fleurissent de par le monde.
Alors, autre chose qui est pointée dans votre livre aussi, et dès qu'on parle de la Turquie, c'est, je vous cite, la volonté du gouvernement, des autorités d'islamiser islamiser la société.
C'est en fait islamiser parce qu'ils sont conservateurs. C'est comme si...
Alors que quand on parle de la Turquie, c'est le kémalisme, c'est la laïcité. Surtout dans un pays comme la France, on en parle beaucoup de cette notion
tout
de laïcité.
Tout à fait. Alors, l'AKP est un pouvoir conservateur, est un pouvoir dont le conservatisme s'inspire évidemment de l'islam. C'est un pays à majorité musulmane, à très grande majorité musulmane. La société turque est une société à grande pratiquante, mais Tayyip Erdogan devient de plus en plus, essaye de trouver la légitimité de son pouvoir par l'islamisation de son discours. Plus on l'accuse de corruption, plus il s'accroche à ce discours d'islamisation. Il a un projet de création d'une génération pieuse pour consolider le pouvoir conservateur en Turquie et devenir le deuxième fondateur de la Turquie après Mustafa Kemal. Vous avez parlé, Mustafa Kemal a été le fondateur de la Turquie moderne autoritaire, d'une laïcisme autoritaire. Mm-hmm. Et Tayyip Erdogan voudrait être maintenant le fondateur de la Turquie conservatrice, plus pieuse et peut-être beaucoup plus ouverte sur le marché international.
Merci Ahmet Insel. Je recommande votre livre qui s'intitule donc La Nouvelle Turquie d'Erdogan, du rêve démocratique à la dérive autoritaire. Un livre très complet et très agréable à lire. Merci de nous parler de la Turquie. Il n'y a pas tant de livres que ça en plus sur ce pays, alors qu'on en parle beaucoup de ce pays en France. Merci.
C'est moi qui remercie de m'avoir invité plus exactement.
Livre publié aux éditions La Découverte. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Une émission que vous pouvez aussi écouter sur notre site et podcaster www.rfi.fr. Je vous retrouve demain dimanche pour le magazine Idée. Notre invité, vous le connaissez peut-être, Ahmet Insel, sera le sociologue Amit Bozarslan.
Ah oui, mon ami Amit Bozarslan.
Auteur d'un ouvrage sur les révolutions arabes depuis 2011.
Il parle de la Turquie. Excellent ouvrage que nous traduisons en turc.
Voilà. Idée demain dimanche donc à 17h10, heure de Paris, comme le monde est petit. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.